Court to Philosophy Premier par le Père Marie-Dominique Philippe, le 15 novembre 2001 à Saint-Gédard.
La première qualité, la première note, ce sont comme des notes, vous savez, comme il y a les notes particulières de l'Église, on peut dire qu'il y a comme ça des... C'est très difficile à bien situer notre première manière d'être comme notre caractéristique de la personne, c'est l'autonomie qui dépend directement de la substance. La substance est percée. Quand nous disons percée, nous traduisons autonomie dans l'ordre de l'être. Pas autonomie dans l'ordre de la vie, ça c'est la liberté, mais autonomie dans l'ordre de l'être. Personne parmi toutes les créatures que j'expérimente vient diminuer cette autonomie dans l'ordre de l'être. Je suis moi-même dans mon être. Bon, toute l'éducation a sûrement modifié cette autonomie, mais elle revient toujours à cette autonomie. Toute l'éducation repose sur cette autonomie. Je n'éduque pas un chien, je le dresse. Là, on voit bien la différence. Un chien n'a pas d'autonomie. Il existe, c'est vrai, il existe par lui-même, mais il n'a pas d'autonomie radicale. Il est dépendant dans sa vie et son être. Tandis que le petit enfant a une autonomie. Et c'est pour ça que celui qui doit l'éduquer est très responsable. Oui. Une éducation païenne, laïque, est une éducation qui engendre l'angoisse. Un peuple, comme le peuple français, dont l'éducation première est laïque, engendre nécessairement l'angoisse. Parce qu'on touche à l'autonomie de la personne. On l'oriente dans un sens politique. Comme si c'était ça la finalité. On ne respecte pas ce qu'il y a de tout à fait foncier dans l'autonomie, l'autonomie métaphysique de l'être. Votre être ne dépend pas, il dépend de votre substance, de votre âme, mais il ne dépend pas du conditionnement. Il est conditionné par le milieu, mais il y a en lui quelque chose de plus radical. Ce quelque chose de plus radical, on pourra le préciser avec tout problème de la création de l'âme, mais déjà, au point de vue philosophique, avec la substance, on reconnaît qu'il y a une autonomie dans l'être. Ce sera ce terme de subsistance qui exprimera bien cette autonomie dans l'autre de l'être. Vous voyez, c'est directement la suite de la découverte de la substance. Par la substance, on précise un principe dans l'être, Donc on détermine quelque chose de premier dans l'être. Dans l'être selon l'ordre formel. Il y a quelque chose de premier. Princeps, il est premier. Donc indépendant. Donc autonome. Indépendant, vous ne dépendez pas de vos parents radicalement. Dans le conditionnement, oui. C'est bien évident, l'enfant dépend de sa mère et est totalement dépendant de sa mère dans ce premier développement. Mais plus la substance, plus l'âme peut se être elle-même, prendre conscience radicalement de ce qu'elle est, elle touche à quelque chose dans l'ordre de l'être qui n'est pas dépendant, qui est autonome. Autonome, il est lui-même. La substance est elle-même. Dans l'ordre de l'être, elle est principe. Vous voyez, c'est très important de saisir cela. De saisir qu'il y a dans toute personne humaine quelque chose de radicalement autonome, de radicalement indépendant des autres. Yo verra que cette indépendance des autres est une dépendance radicale à l'égard du Créateur. Cela ne pourra se déterminer qu'après avoir précisé l'existence de Dieu. Il y a premièrement, au point de vue philosophique, premièrement avoir cette indépendance de l'ordre de l'être. Vous voyez, si Feuerbach, qui est l'apôtre de l'athéisme, philosophiquement, si Feuerbach montre que Dieu n'existe pas, que c'est l'être humain qui a une indépendance totale, c'est que il ne voit pas suffisamment la différence entre le point de vue de l'être et le point de vue de la vie. L'âme est première, elle a son autonomie dans l'ordre de la vie. Ça, on le verra après. Et donc, elle a donc une certaine autonomie, je ne dis pas complète, je dis une certaine autonomie qu'on précisera et qui fait partie de sa personne. Au fond, vous voyez, c'est le mot philosophique de subsistance qu'il faut saisir. La personne est subsistante, c'est-à-dire qu'elle existe en elle-même. Elle n'existe pas nécessairement par elle-même, mais elle existe première en elle-même. Elle a en elle-même non seulement la possibilité d'être, mais l'acte d'être. Elle est. Et elle est en elle-même. Donc, elle a autour d'elle et en elle une indépendance radicale, une autonomie radicale. Elle ne dépend d'aucune réalité que je vois, que j'expérimente. Elle a vis-à-vis de ses parents une dépendance en raison de sa faiblesse, cette dépendance du tout petit enfant, cette dépendance qui peut être qui peut durer assez longtemps, mais elle a en elle-même une indépendance qui fait que progressivement, et c'est ça qui est extrêmement curieux, progressivement, j'acquiers cette indépendance dans l'ordre de l'être. Si votre mère réclame qu'elle est source de votre vie et source donc de votre être, même quand vous êtes, quand vous arrivez à posséder une certaine autonomie dans l'être, vous devez couper le cordon ombilical. On sait très bien que celui qui reste toujours dépendant de sa mère, il y a quelque chose qui devait se réaliser et qui ne se réalise pas. Il reste comme dépendant au plus intime de lui-même. Et sa personne n'acquiert jamais son autonomie. Alors vous voyez, ça qui est très étonnant, c'est qu'à la fois, c'est fondamentalement dans la substance, mon âme radicalement possède en elle cette autonomie. Et elle s'acquiert progressivement dans l'ordre de l'exercice, dans l'ordre de la conscience. À quel moment ai-je le sentiment de cette autonomie ? C'est, je crois, quand j'ai conscience de ma responsabilité. Il est sûr que le point de vue de la responsabilité s'enracine dans cette autonomie. Puisque être responsable, c'est justement être principe. C'est être cause. C'est être celui qui pouvait arrêter ça, empêcher ça, ce développement. Il y a en moi cette chose curieuse de la personne humaine, parce que la personne humaine, elle est et elle devient. Et ça, c'est propre à la personne humaine. Elle est et elle devient. L'enfant n'a pas d'autonomie. Mais il n'a pas d'autonomie. Il est dépendant dans sa vie. C'est la dépendance radicale dans la vie. C'est très curieux. Et c'est justement cela qui montrerait que l'âme n'est pas créée tout de suite. L'enfant, au point de départ, est radicalement dépendant de ses parents, au point de vue de la vie de sa mère. Et puis, progressivement, il acquiert un rythme de vie qui lui est propre. C'est très difficile de préciser à quel moment dans la vie embryonnaire il a cette vie. À quel moment le petit qui est né avant terme peut-il vivre ? Quand la naissance a lieu trop vite. Il y a un moment où l'enfant peut vivre sous cloche. Donc, on le fait vivre. Normalement, il aurait dû continuer de vivre dans le sein maternel. Il y a eu un accident pour une raison. Il est né avant terme. Alors, quand c'est trop rapide, c'est-à-dire quand il est encore pas assez formé, il ne peut pas vivre. Il est dépendant du milieu maternel. À un moment, il sera indépendant du milieu maternel. C'est-à-dire, le milieu maternel peut être remplacé par un milieu artificiel qui remplace le milieu maternel. Mais je ne touche pas à l'être de cet enfant. Et puis, ça, c'est un point très important pour voir quand l'âme est-elle créée. Si l'âme est créée, il a tout de suite une indépendance en l'ordre de l'être. Mais dans le développement de sa vie, il est dépendant. Il semble bien qu'on puisse affirmer que dès que l'âme est créée, il a une vie propre. Tandis que tant que l'âme n'est pas créée, il n'a pas de vie propre. Il est enfoui dans le devenir de sa mère et dépend d'elle. C'est le milieu vital, maternel, et tout pour lui. Quand l'âme est créée, il a un être autonome. Notre autonomie radicale commence par la création de notre âme. Oui, on ne peut pas le préciser. On ne peut pas préciser à quel moment l'âme est créée. On peut dire que l'âme est créée, elle apporte une autonomie dans l'ordre de l'être. Tandis que tant qu'elle n'est pas créée, l'enfant dépend du milieu maternel. Donc, il faut bien saisir que cette autonomie dans l'ordre de l'être qui dépend de la substance, qui dépend de notre âme, demande de se développer. Et il se développe progressivement pour arriver à un âge où le développement de cette autonomie est suffisant pour se manifester à travers l'intelligence et la volonté, ce qu'on appelle l'âge de raison. Le tout petit enfant, le développement de son autonomie est très faible. Il existe, mais il est très faible. Donc, il faut saisir cette autonomie radicale au point de vue de son être. Ça touche plus que l'âme en tant que principe, ça touche la manière dont cette âme s'est développée. Oui, c'est pour ça que c'est le pos, c'est le comment. Distinguons bien à ce moment-là la propriété de l'être au point de vue métaphysique. La propriété de l'être, c'est l'unité. Tout être en tant qu'être est un. L'unité est l'autonomie. L'unité est une propriété métaphysique de l'être. La substance est une, puisqu'elle est principe de l'être, donc elle est une. L'acte est un. Mais quand je regarde la propriété personnelle de l'homme, je ne regarde pas son unité métaphysique qui relève de sa substance et de son acte, qui relève de son existence. Je regarde un état particulier du développement de sa substance. La substance humaine réclame par elle-même cette autonomie. Vous voyez, la différence entre l'unité métaphysique et la propriété que nous essayons de préciser au point de vue de sa personne. L'être humain a quelque chose de particulier, c'est qu'il demande de se développer dans l'autonomie, d'avoir une certaine indépendance dans son développement. L'unité, il l'a tout de suite. L'âme, dès qu'elle est créée, je ne peux pas encore parler de temps, mais dès qu'elle existe, mon âme est une. Elle a l'unité substantielle, parce que c'est un être substantiel. Elle a l'unité d'être principe. En tant qu'elle est. C'est pour ça qu'il y a l'unité du côté de la forme et l'unité du côté de la fin. Et c'est peut-être cette unité du côté de la forme, tout premier selon la forme, qui est principe, est un. Cette unité métaphysique n'est pas ce que je regarde maintenant, la première qualité, la première manière d'être, pos. Quelle différence y a-t-il entre la propriété métaphysique et le pos, le comment ? Et c'est ça qu'il faut saisir. La propriété métaphysique de tout principe, c'est d'être un. Tout principe est un. C'est la propriété de l'être. Donc, il y a l'unité selon le principe formel, la substance. Il y a l'unité selon le principe final. Dans la réalité concrète, la forme et l'acte. Se réalise dans une personne. La personne implique cette substance, l'âme, et la personne implique son ordre vers la fin. Il y a les deux. Quand de fait, il n'y a pas l'ordre vers la fin, il y a simplement un petit être qui a une âme, je présume, mais aucun développement possible ne se réalise. Il n'a pas d'autonomie. Il est complètement dépendant de son milieu. Et on peut dire qu'il existe, c'est évident qu'il existe, mais il n'est pas personne. Il n'a pas possibilité de vivre de sa fin. Impossibilité de développer l'intelligence, impossibilité de développer la volonté. Je me souviens encore très particulier, qui faisait du reste beaucoup réfléchir, C'est une famille que je connaissais. Les parents s'étaient mariés tard. Et ils avaient eu une petite fille qui s'adulait, qui élevait dans, presque comme dans la ouate. Et la mère était pourtant quelqu'un qui, pendant la guerre, avait eu une conduite admirable. Elle s'était mariée après. Et une conduite vraiment héroïque. Elle avait payé de sa vie, payé de sa personne d'une façon étonnante. Et de temps en temps, ça revenait. Alors, elle voyait bien. Elle aimait tendrement cette petite fille. Et pourtant, elle l'a secouée de temps en temps, très fortement. En disant, quand même, tu es encore comme ça, tu devrais quand même avoir plus de volonté. Et elle faisait d'une façon qui, quelquefois, on tremblait un petit peu. On dit, elle va un peu trop loin. Alors, l'enfant revient en racontant le jeu qu'elle avait fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, ces jeux où ces enfants dégringolent sur la descente d'une montagne. Alors, la petite fille revient en disant à sa mère qu'elle a eu trop peur, qu'elle n'a pas osé. Alors sa mère s'est fâchée, elle dit quand même, tu as peur de ça. Et puis, c'est passé comme ça. Et le lendemain, la petite fille est partie très tôt, sans rien dire. Elle a voulu d'elle-même faire l'expérience pour dire à sa mère qu'elle l'avait fait. Et étant seule, elle a fait une chute terrible. Et à partir de cette chute, il n'y avait plus possibilité, alors qu'elle se développait normalement, et très intelligente, très fine, elle avait toutes les qualités que pouvait avoir une petite fille, un arrêt. On n'a jamais su exactement le degré d'intelligence, de développement de l'intelligence qui pouvait exister. C'est terrible. Et on a su que c'est ça, à cause de cet accident. Donc, elle avait porté sur elle-même la remarque de sa mère, violente, et elle était partie tôt. Mais elle tenait de sa mère, ça vous. Elle tenait de sa mère cette espèce d'énergie de vouloir faire. Si sa mère n'était pas contente qu'elle n'avait pas eu l'audace et le courage de faire cette espèce d'expérience, elle la ferait. Mais il y a eu cette chute. Et donc, un arrêt net du développement de l'intelligence et par le fait même de la volonté. On n'a jamais su exactement. Le cas se présentait pour sa première communion. Et c'est pour ça que j'étais très au courant de tout ça, parce que sa mère portait très lourdement la responsabilité de ça. Elle dit, j'étais trop violente. J'ai voulu qu'elle soit quelqu'un qui soit forte. Mais c'est de ma faute. On n'a jamais su quelle était la conscience, le développement. Alors, le cas se posait pour la première communion. Oui. Et on voit très bien là, le développement vital de la personne et l'être. Elle existait. Et on l'a respectée comme une personne. Mais il y avait une coupure. Donc, quelquefois, c'est la maladie, quelquefois, c'est un accident. on voit bien la différence du devenir. Le devenir. Nous devenons personne. C'est sûr, ça. Et pourtant, c'est métaphysique. Il y a l'unité des deux. Allez, quand vous voyez un enfant qui vient naître, vous ne dites pas devant la mère, « Oh, quelle merveilleuse petite personne !» Non, ce merveilleux enfant, c'est une personne pourtant, mais une personne en devenir. Ça demande d'être éduquée. Si elle reste toujours dans l'état où elle est née, je dirais sa personne, sa personnalité ne s'est pas développée. Sa personne ne s'est pas développée, mais substantiellement, elle est personne. Alors, vous voyez, cette chose très délicate pour la personne. C'est pour ça que je dis que la personne, ce n'est pas une propriété de l'être, parce que l'unité métaphysique demeure toujours. C'est le pose, le comment de l'existence. Le comment de l'existence, donc de l'unité de la substance et de l'unité de l'acte. Votre personne existe en fonction de votre âme. Mais votre âme demande que vous soyez finalisé. Autrement, votre âme ne se développe pas. Votre personnalité et votre personne ne se développent pas. Elles se développent dans la mesure où la fin est de plus en plus vécue en vous. Ça fait partie de votre personne. Une personne n'est vraiment personne que lorsqu'elle atteint sa fin. Personne humaine. Tout acte est personnel s'il est finalisé. S'il n'est pas finalisé, il n'est plus personnel. Quelqu'un qui passe sa vie uniquement à dormir et à manger, il reste du temps. C'est comme une plante. Elle vit, mais impossibilité de savoir si elle est présente ou non. Et vous dites, alors à ce moment-là, vous voyez qu'il y a comme un arrêt du développement de sa personne. C'est très, très mystérieux. C'est pour ça que c'est un problème qui est très important au plan vue métaphysique, de voir ce qu'est la personne au plan métaphysique. Vous voyez, il y a ce lien entre le devenir et l'être. Nous sommes, parmi les animaux, l'être qui devient auquel le devenir est le plus grand. Il y a un devenir formidable dans l'homme. Et quand il vit jusqu'à 70 ans, il y a un devenir formidable, 80, 90, 100. Et le petit, dans son berceau, jusqu'à ça, l'animal ne vit pas autant, n'a pas ce devenir aussi extraordinaire. Puisque notre devenir aboutit à la contemplation. Quand il n'y a pas de contemplation, le devenir a été arrêté. Donc le développement de la personne a été arrêté. Donc le développement fait partie de la personne. Vous voyez ? Le développement spirituel. Le développement physique aussi. On est un être auquel le devenir a transformé. notre personne. Alors vous voyez, dans l'unité, c'est tandis que l'unité métaphysique, elle est directement la conséquence du principe. Donc il n'y a pas de devenir. Je suis un dans mon être. Et je suis. C'est le point de vue métaphysique. C'est pour ça que la personne, c'est pas seulement je suis. Hein. Quand vous dites je suis, c'est un élément de la personne de pouvoir dire je suis. Quelqu'un qui ne peut pas dire je suis, en réfléchissant et en comprenant ce qu'il est, mais n'est pas une personne humaine. Dans la personne humaine, il y a premièrement l'affirmation qu'on existe, qu'on est une personne, c'est-à-dire qu'on est distinct de tous les autres, qu'on a en soi quelque chose d'original. Je suis très heureux de savoir que chacun d'entre nous, on a quelque chose d'original. Vous pouvez toujours dire que cette personne ne vous a pas compris. C'est vrai. Au fond, vous êtes unique à vous comprendre. Alors, vous voyez, hein, c'est dangereux de dire ça. Et c'est pourtant vrai. Vous êtes unique à vous comprendre. Alors, vous pouvez toujours avoir cette espèce de raisonnement. Dire, tu ne me comprends pas, donc je fais ce que je dois faire. Et ça existe, ce genre de personnes qui ne veulent pas obéir parce qu'on ne la comprend pas. Et c'est vrai que vous êtes unique à vous comprendre. Vous avez quelque chose en vous, votre personne. Elle est unique. Jamais vous pourrez dire quelqu'un vous ressemble, quelqu'un est né le même jour que vous. Alors à ce point de vue-là, il a le même âge que vous. C'est une fameuse ressemblance, hein, d'avoir le même âge. Hein, le même. Mais vous avez quelque chose d'unique. Ce quelque chose d'unique, il vient de mon âme. Mais pas mon âme séparée. Vous voyez, je dis que spécifiquement, toutes les âmes humaines sont les mêmes. Ah. Spécifiquement. Mais en réalité ultime, dans leur existence, chaque âme humaine est unique. Elle est unique parce que elle vit, elle existe dans le corps. Et par le corps, il y a l'individuation. Et cette individuation, c'est pas seulement la manifestation, c'est substantiel. Votre corps n'est pas seulement la manifestation de votre âme. Votre corps est uni substantiellement à votre âme. Et donc, l'individu que vous êtes fait partie de votre personne. Vous ne pouvez pas dire les deux, couper les deux. Au point de vue individuel, je suis comme ça, je suis irréductible à la communauté, je suis un individu, je sais que je suis seul comme ça. Et quant à ma personne, l'amitié, j'en ai absolument besoin. Non, nous sommes un dans notre personne, dans notre âme et notre corps. Alors, au point de vue personne, ça joue. Et c'est pour ça qu'il y a le devenir. Si je n'étais qu'une âme spirituelle, il n'y aurait pas de devenir. Il y aurait un devenir comme pour les anges, hein. Un devenir très relatif, un devenir dans un choix. Tandis que pour nous, il y a un vrai devenir à cause de notre corps, à cause du poids de notre corps. Et ça, ça fait partie de notre être. Oui, donc l'aspect devenir devient substantiel. C'est invraisemblable. Ça devient substantiel. Ça devient essentiel à notre être. Nous ne pouvons pas couper, dire « Ah, je suis un être métaphysique. Le devenir, poussière. Ça me conduit à la mort. Poussière. C'est morbide, le devenir. Puis ça me conduit à la mort. Non. Le devenir humain n'est pas morbide. Le devenir humain fait partie essentielle de la personne. Et ceci, on le verra encore plus quand on verra que le corps fait partie essentielle de la personne. Ici, je regarde l'âme, mais ce devenir, il est dans mon âme. Et il se réalise de cette façon que j'ai conscience de plus en plus. Normalement, vous développez toujours la conscience. Vous êtes plus conscient de vous quand vous avez 70 ans que quand vous avez 23 ans ou 24 ans. Sauf si le poids des âges vous ratatine sur vous-même et vous fait perdre alors votre dignité personnelle. Mais si vous maintenez la dignité personnelle, c'est-à-dire l'intelligence et l'amour, votre être est de plus en plus conscient. Ça fait partie de cette espèce d'autonomie. Vous êtes de plus en plus unique. Et c'est vrai, vous êtes de plus en plus unique. Tous les petits enfants se ressemblent. Et pourtant, chacun est différent. Chacun est différent. Chacun est unique. Alors, l'autonomie, c'est quelque chose d'unique. Oui, l'unité est bien présente dans cette autonomie. Mais dans mon autonomie, c'est pas seulement l'unité substantielle, c'est l'unité aussi qui vient de la finalité. Et c'est les deux qui se rencontrent et qui ne font qu'un. Parce que la détermination qui est en moi, de mon âme, elle se développe grâce à ma finalité. Et elle se développe dans ma finalité. Je la vis, cette finalité. Non seulement je la vis, mais elle est dans mon être. C'est mon acte d'être. Bien, cette espèce d'autonomie, c'est l'unité formelle, c'est l'unité de la fin, tous les deux en harmonie, non seulement en harmonie, mais faisant une unité substantielle. Je suis parfaitement moi-même quand je tends vers ma fin. Je suis parfaitement moi-même quand je suis. Eh bien, mon autonomie, elle bloque les deux. Mon autonomie, je ne dis pas que je ferai une distinction. Je suis parfaitement autonome dans mon être. Ah, quant à ma finalité, je cherche, Vous voyez constamment des personnalités comme ça. En tant que leur âme, ils sont un, oui, c'est toujours la même personne. Mais la finalité, une aiguille branlante. Et quelquefois, très branlante. Parce que un petit peu branlante, c'est bien. Parce que les gens trop déterminés et que l'aiguille n'est pas brûlante. Quant à la finalité, ça devient un petit peu ennuyeux. Quand vous êtes déterminé, c'est tout. C'est comme ça, ça doit aller comme ça. On fonce. On ne faut qu'une. Tandis qu'il y a constamment des contours pour la finalité. La ligne droite est quelquefois une ligne qui implique certaines courbes pour être plus sûr d'obtenir le but. Pour être plus sûr. Quand on va trop directement, on se casse ses jambes, hein. On se casse sa tête. Mais on dira il manque de finesse. Il manque de finesse quant à la finalité. C'est, il n'y a que l'unité de la substance. Je suis comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Le monde peut crouler, je suis comme ça. Mais non. Il y a nécessairement, au point de vue de la finalité, il y a quelque chose qui change toujours, mais qui ne change pas trop. Vous avez certaines personnalités, certaines personnes où il manque de détermination. Du reste, vous le dites dans le langage. Cette personne, elle est charmante, délicieuse, merveilleuse, un cœur d'or, un cœur tellement aimant que dès qu'il y a une difficulté, pour ne pas écraser la mouche, on fait un détour. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Ils ne veulent jamais écraser une mouche. Parce qu'écraser une mouche, c'est quand même... Vous comprenez bien, la mouche, symboliquement. Contrarier quelqu'un. Ben, contrarier quelqu'un, ça arrive, qu'on contrarie quelqu'un. On est quelquefois bien obligé de contrarier. Quand vous voudriez ne jamais contrarier quelqu'un, vous oubliez votre autonomie. Êtes-vous autonome? Êtes-vous personnel? Mais il est forcé que votre manière de voir la fin est unique. Et donc, si vous voulez avancer, et si vous voulez être net, bien vous acceptez d'écraser la mouche. Si vous ne l'écrasez pas, elle va grossir. Et elle va devenir un obstacle. Et vous serez obligé de ne pas atteindre votre fin. Vous vous laisserez prendre. Vous voyez, comme c'est délicat, la détermination d'une personne. Comme c'est grand. C'est pas du tout rac, rac, c'est ça. Il y aura des personnes comme ça. On rencontrera dans notre vie des personnes comme ça. Alors, vous leur direz, ces personnes, à la place de la finalité, ils ont pris la logique. Ah, c'est le grand danger. La finalité garde une souplesse parce qu'on tend vers le bien. Et ça fait partie de mon autonomie. Hein. Mon autonomie grandit dans la mesure où je suis pleinement finalisé. Si je suis entièrement finalisé, ma détermination est beaucoup plus parfaite. Mais quand je suis finalisé par l'amour, quand l'amour diminue et que je garde cette détermination, sans amour, ou avec très peu d'amour, je deviens raide. Oui, la finalité perd son caractère d'avoir une très grande souplesse, parce qu'elle exige toujours un dépassement. Chaque fois que je suis finalisé, je me dépasse. Et se dépasser, c'est pas commode. Et ça fait partie de ma personne. Ça fait partie de cette autonomie. Je suis autonome dans ce dépassement. Et présent, ce dépassement se fera forcément par l'amour. Et dans l'amour, il garde toujours sa souplesse. Et quand l'amour diminue, il n'y a plus que la détermination. Et la détermination, très bien. C'est très bien d'être déterminé. Mais attention, quand il s'agit de la finalité, c'est une détermination dans l'amour. Et quand l'amour diminue, il ne reste plus que la ficelle. Oui. Je garde la détermination, mais dans le stoïcisme, c'est très net, ça. Dans le stoïcisme, il y a une détermination qui est nette en vis-à-vis de la finalité, mais la finalité n'est plus affective. Elle redevient uniquement une détermination. Alors il y a quelque chose de raide. Et quelque chose de tellement raide que quelquefois, à cause de cette détermination, on écrasera la personne. Et c'est pas commode, hein, à voir la personne humaine, hein, dans sa détermination et son autonomie. Du côté substance, c'est facile à déterminer, mais du côté finalité, c'est beaucoup plus difficile, parce que ma fin, je l'atteins de plus en plus. Il n'y a pas de vieillissement dans l'approche de la finalité, et pourtant il y a un vieillissement du côté du corps. Le vieillissement fait qu'on est plus rigide. Ça, c'est très net. Le corps devient beaucoup plus rigide. Je suis toujours dans l'idée, la souplesse du corps, quand on voit des gosses qui font du ski. Des gosses qui font du ski, c'est merveilleux. Ils peuvent faire des pirouettes en ski. Alors que les grandes personnes, si elles veulent faire la même chose, oh, ça ne va plus du tout. Des gens âgés qui font du ski, c'est rigide. Tandis que des gosses qui font du ski, c'est merveilleux. La souplesse. Bon. Et c'est vrai. La vieillesse se marque par un manque de souplesse corporelle. Le corps devient rigide. Et ça se traduit dans le point de vue de l'autonomie de la personne. Une autonomie de la personne, cette personne reste souple parce que son autonomie est finalisée. Mais quand elle vieillit, l'autonomie risque toujours de devenir rigide. C'est déterminé. Peu importe. Ça a été déterminé. C'est comme ça. Avancer. Je vais écraser quelqu'un. Ça fait rien. Avancer. C'est déterminé. les obstacles qui exigent de la personne d'avoir un peu de souplesse. Non. Vous voyez, c'est complexe, hein, l'autonomie d'une personne. C'est très complexe. C'est normal parce que c'est le pos. C'est ce que la scolastique n'a pas vu du tout. La scolastique a cherché le tiesti et n'a pas du tout cherché le pos, le comment. Et ce qui fait, pour se venger de cela, Auguste Comte a dit, plus la recherche du tiesti, non, ça c'est le principe. Non, on recherche que le pos. Et en psychologie, on ne recherche que le pos, sans finalité.